Chapitre 5, verset 21. Genèse, chapitre 5, verset 21. On a parlé de quoi dimanche dernier? De qui? Jonas, qu'on appelle? Vous ne vous rappelez pas? La colombe. Amen. Symbole de paix, également de fidélité, etc. Là, on va parler d'Enoch. Hein? Alors, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuséla. Enoch, après la naissance de Methuséla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Enoch, vous savez ce que ça signifie? Consacré. Et on va voir que finalement, il portait bien son nom. Amen, parce que c'est une leçon de consécration que nous allons voir ce matin au travers de sa vie. Alors, toute la vie d'Enoch, 365 ans, est résumée dans la Bible en quelques phrases qui font surtout état de son caractère. Et nous venons de le lire, tout simplement, nous parle d'un homme juste, intègre, droit. Amen. Hébreux, chapitre 11, verset 5, nous parle d'un homme de foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Qui n'a pas envie d'être agréable à Dieu? Alléluia. Et je crois que si je dis lever la main, tout le monde lève la main. Hein, je le demande. Amen. On a envie d'être agréable à Dieu. On a envie de lui plaire. Jude 14 et 15 nous parle d'un prophète, toujours dans la même personne, Enoch. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce que nous étions autrefois. Réjouissez-vous. Parce que normalement, cette époque est révolue. Amen. Maintenant, nous sommes parmi les justes. J'ai été justifié par le sang de l'agneau. C'est-à-dire, j'ai été rendu juste. Mon péché a été enseveli au fond de la mer. Alléluia. Alors souvent, lorsque nous lisons les textes de la Bible concernant certains personnages, nous nous imaginons qu'ils vivaient une vie de mystique, vous voyez, dans un état de contemplation permanent. Est-ce que c'est ça? Retiré du monde, à l'écart, sans contact avec la société? Pas du tout. Parce que nous apercevons, avec un peu d'observation, que ces personnes, dont Enoch lui-même, avaient une vie normale. La plupart du temps, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, peut-être même plus que nous n'en avons, nous. La contraception n'existait pas. Donc, avec des responsabilités familiales importantes, mais ils prenaient soin des leurs. Oui, ils élevaient correctement leurs enfants, ils travaillaient pour les besoins de leur foyer, afin de donner de la nourriture à chacun, un toit également, comme nous. D'ailleurs, nous pouvons dire que quelque part, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est la réalité. Hein. La Bible dit bien que ceux qui ne travaillent pas, ils ne mangent pas non plus. Donc nous devons travailler pour manger, pour nous nourrir, et puis d'autant plus quand nous avons la responsabilité d'une famille, hein, nous avons la charge. Lorsque les Écritures parlent d'eux, c'est souvent pour souligner leur foi, je dirais, ou les choses surnaturelles qui se sont produites dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui se sont produites, des choses qui se sont passées. Merveilleuses. Quelquefois, ça a été des délivrances dans le combat. Parce que l'ennemi était toujours là. Hein. Alors, ce qui nous montre que malgré leurs activités quotidiennes, eh bien, ils prenaient quelque part le temps de la communion avec leur Dieu. Ils restaient dans la présence de Dieu, ils avaient le moment qui était le moment de Dieu. Amen. Enoch vivait juste avant le déluge. Ça vous dit quelque chose de le déluge? Pourquoi il y a eu le déluge? Oh, Dieu a eu une lubie comme ça, il a eu envie qu'il y ait un déluge. Non, pas du tout. La méchanceté des hommes était montée jusqu'à lui. La corruption, l'horreur, tout ça était monté jusqu'à lui. Alors, Dieu a dû agir, puisque toute la terre était corrompue. Toute la terre vivait dans la méchanceté. C'était horrible. Alors, Enoch, lui, il a prophétisé pour les avertir. Et il est devenu ainsi prophète pour sa génération. C'est Jude qui dira de lui, et je le lis dans la version français courant, je viens de le lire tout à l'heure dans la version seconde. Dans la version français courant, c'est comme ça. C'est Enoch, septième descendant d'Adam, en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant, « Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges, par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. » C'est clair, hein ? Eh oui. Alors, Enoch vivait au milieu de pécheurs, d'impies. Cependant, eh bien, il a marché avec Dieu. Pas qu'un jour, hein ? 300 ans. Alors, ça veut dire qu'il ne s'est pas laissé séduire ni corrompre par certaines idées. Il n'est pas tombé également dans des habitudes ou des travers. Il n'est pas également, il n'a pris pas cause et effet vis-à-vis des mœurs que ces gens avaient. Elles étaient corrompues. Elles étaient contre Dieu. Il marchait avec Dieu. C'est-à-dire qu'il cherchait à ce que sa vie et sa manière d'être, elle plaise au Seigneur. Est-ce que c'est ce que vous vous dites chaque jour que vous vous levez? Seigneur, cette journée, je la place devant toi, je veux non pas te manquer de respect, mais je veux au contraire te montrer que je t'aime, que je veux te plaire, que je veux tout faire pour la gloire de ton nom. Amen. Marcher avec Dieu, c'est chercher à vivre en accord avec sa pensée. C'est le prophète Amos qui dit dans Amos 3, verset 3, et la Bible du semeur, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Non, pour vivre en harmonie avec Dieu, j'ai besoin de chercher sa présence. Pour harmoniser ma vie à la sienne, j'ai besoin de connaître son enseignement, sa volonté, les critères qui sont les siens, et puis calquer ma vie sur justement lui, sur sa volonté. Enoch, je l'ai dit tout à l'heure, était un homme juste, c'est-à-dire intègre, au même titre que Noé ou Lot, qui au milieu eux aussi d'une génération perverse et corrompue, eh bien se sont gardés des souillures du monde, ils se sont gardés pour Dieu. Amen. Ils se sont gardés pour Dieu. On dirait aujourd'hui, ils marchaient dans la sanctification. Amen. Ils marchaient dans la sanctification. Ils se séparaient du mal pour plaire à Dieu. Ils ne cherchaient pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Tout en vivant au contact de la société, des hommes de leur temps. Voyez-vous, Enoch a marqué sa différence. Est-ce que nous marquons la différence dans la société dans laquelle nous vivons, au sein même de notre famille, notre vie familiale, peut-être même dans notre travail? Parce que si je suis chrétien, je le suis tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Non, sauf l'année bissextile. Mais normalement, c'est ça. Je ne suis pas chrétien que quand je viens dimanche matin. Ah, je me prépare un peu avant au petit déjeuner. Non, non, je suis chrétien tous les jours de ma vie. Chaque jour que Dieu fait, je dois marquer la différence. On doit savoir que je suis enfant de Dieu. Amen. Enoch était un homme de foi. Il s'appuyait sur Dieu. C'est pour cela qu'il a pu marcher si longtemps avec le Seigneur. Eh oui. Néanmoins, si je réalise un petit peu, puisqu'il marquait la différence, il devait être bien isolé en son temps. Vous avez dit que vous étiez chrétien autour de vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un vide qui s'est fait d'un coup. Il est comme un fossé. On vous regarde comme ça. Eh oui. Si vous approchez d'eux, quelquefois, vous les voyez, hop, ils font comme si vous n'étiez pas là. Surtout qu'ils ne m'inondent pas de sa Bible. Hein. Bon, il faut de la sagesse, bien sûr, mais en étant enfant de Dieu, on dit les choses comme il faut les dire. Avec un petit peu de sel, mais également avec un grand amour. Amen. Il faut, hein, c'est ce que nous demande le Seigneur. Hein. Alors oui, sa vie n'était pas facile. Son petit-fils, Lémec, se plaint de la difficulté de la vie à cette époque. Genèse 5, versets 28 et 29. Lémec, âgé de 182 ans, on vivait vieux à l'époque, hein, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Et on sait de quand vient la malédiction. Hein. « Il te poussera des ronces et des épines. » À qui a-t-il été dit ça ? Adam ! Oh ! Et un bail, hein ? Ça remonte à loin, à la création. Où nos premiers parents ont choisi tout simplement de désobéir. Alors, dans un environnement si difficile, Enoch a eu besoin de chercher et de puiser sa force en Dieu. Et si nous n'allons pas chercher nos forces en Dieu, comment allons-nous résister à la pression exercée sur nos vies ? Également à la tentation de quelque part nous faire justice, parce qu'à des moments, ça nous démange. Non ? Mais bien sûr. Alors, on a besoin d'aller et de puiser auprès du trône de la grâce, auprès du Seigneur, tout simplement ces forces dont nous avons besoin. Nous savons par expérience que nos propres forces ne sont pas suffisantes pour résister au mal et également pour faire le bien. Quand on est en forme, ça va. Mais quand on est épuisé, on n'est pas un peu grincheux ? Ça ne vous arrive pas ? Vous êtes mal dormi, vous levez le matin et des tuiles vous tombent sur la tête. Comment va se passer la journée ? Oh, 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 vivement qu'elle finisse ! Mais oui, mais c'est la réalité. Et nous sommes de chair. Nous sommes de chair. Nous ne sommes pas des robots, des automates. Non, nous sommes de chair. Alors, c'est la foi en Dieu, lorsque justement nous cherchons auprès de lui le secours, qui va nous permettre de tenir le choc, de demeurer fidèles. Jude 25 dit que c'est Jésus qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. C'est Jésus. Vous aimez Jésus ? Comment vous l'aimez Jésus ? Grand. Ma petite fille, je lui dis, comment tu m'aimes ? Comme ça ? Grand. Comme ça, elle fait. Mais oui. Il faut aimer Jésus comme ça. Hein ? De tout son cœur, de toute son âme, toute sa force. Amen. Aimer le Seigneur. Alors Enoch était prophète. C'est-à-dire qu'il avait un message pour sa génération, comme le dit Jude, et ce n'était pas un message facile. À cause de ce qu'il annonçait, je pense qu'il ne devait pas plaire à tout le monde. Vous vous plaisez à tout le monde, vous ? Parce que je pense que si c'est comme moi, il a dû vous arriver de pouvoir dire ou de devoir dire. Ah ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Bon, à l'époque, j'étais pompier professionnel. Et il m'arrivait de prendre mon poste au standard. Vous savez, au service informatique, puisqu'on avait toutes les alertes qui étaient informatisées. Mais il y avait le téléphone pour répondre aux appels. Et les collègues, il y en a un qui me dit un jour, « Bernard, si ma femme appelle, tu lui dis que je suis sur intervention. » Et non, je ne suis pas sur intervention. Je savais où il allait, hein. Ce n'était pas beau ce qu'il allait faire. Alors, j'ai dit, écoute, trouve quelqu'un pour répondre à ma place. Parce que moi, je ne pourrais pas mentir. Donc, il le savait. Hein, chaque fois qu'il y en a un qui voulait faire quelque chose de travers, là, de pas beau, eh bien, il mettait quelqu'un à côté de moi pour répondre. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, moi, je ne peux pas répondre. Amen. Et bien sûr que quand j'agissais comme ça, quand je disais ah non, je ne peux pas mentir, eh bien, je ne leur plaisais pas. Vous voyez ? Mais c'est normal. Alors, pour Enoch, être agréable à Dieu, c'était sa priorité. Tant pis hein, pour ce que les autres pouvaient en penser. Lui, ce qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et l'apôtre Paul va écrire aux Galates ceci. « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ?» Ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Plaire à Dieu. Oh, Dieu fera en sorte que nous plaisions aux hommes aussi. Mais ce sera différent que quand, quelque part, on fait des alliances, une mauvaise stratégie, voilà, on peut leur plaire, on va quelque part. Non, non, pas du tout. La vie même d'Enoch, sa conduite au milieu d'un monde corrompu, c'était un message. Et votre vie au milieu de ce monde corrompu, ce sera un message. Il était prophète de Dieu. Il avertissait ses contemporains par ses paroles, mais également par sa manière de vivre. Je ne veux pas dire que je suis chrétien si quelque part ma vie ne correspond pas. J'ai besoin. Alors, nous vivons dans une génération qui ressemble beaucoup à celle d'Enoch, et ce n'est pas facile, bien sûr, de demeurer fidèle à Dieu. Beaucoup se laissent entraîner dans des compromis avec le monde depuis que j'ai attaqué le ministère, et j'en ai vu. Hein. Oh, certains disent que ce n'est pas nécessaire d'être trop rigoureux avec la Bible. Eh oui. Il ne faut pas choquer les gens. Pasteur, vous allez trop loin. Eh oui. On peut s'amuser un peu avec eux, vivre comme eux. Ça se voit moins que je suis enfant de Dieu. Et non, on doit le voir. On doit voir. Hein. Alors si, quelque part, nous nous amusons avec le monde, si nous vivons comme le monde, nous ne pourrons pas être pris au sérieux comme témoins de Jésus-Christ. Bon, il est comme nous. Après tout, je suis pareil, hein. On ne voit pas trop la différence. Hein. Oui, oui. D'autre part, et il faut le savoir, en être conscient, c'est que nous allons faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Et après, comment se présenter et se tenir dans sa présence avec assurance, c'est-à-dire avec foi. Quand justement on a fait des compromis, quand on s'est abaissé un petit peu plus bas. Non, il faut élever le niveau. Amen. Alors, dans sa manière d'être et dans ses paroles, Enoch marchait avec Dieu, c'est-à-dire que dans ses activités quotidiennes, il ne cherchait qu'une chose, c'est plaire au Seigneur. Amen. Et nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous imitons le monde dans sa manière de vivre. Ça tranche, hein, ça doit trancher. Amen. L'apôtre Jacques nous avertit quand il dit dans Jacques chapitre 4, verset 4, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas. Un peu dans la lumière, un peu dans les ténèbres. Ça ne marche pas comme ça. Alors nous sommes parfois irrités, attristés par la conduite et l'incompréhension des personnes qui nous entourent, à qui nous parlons, nous rendons témoignage, de leur refus de croire que leur comportement, eh bien, c'est un comportement de pécheur. Mais que pouvons-nous, justement, d'autres leur apporter? N'oublions pas d'où nous avons été tirés. Je le dis souvent, je suis un pécheur, j'ai été racheté par grâce. J'ai été comme eux. Est-ce que j'ai le droit de porter un jugement? La Bible parle d'avertir, pas de juger. Seul qui peut juger, c'est le Seigneur. Je disais que nous devons les avertir, et je disais tout à l'heure avec un petit peu de sel, la saveur, mais également avec beaucoup d'amour. Amen. c'est ce que nous devons faire. Si nous avons des paroles tranchantes, nous allons faire comme c'est Pierre qui s'est amusé à couper l'oreille. Comment pourront-ils entendre si on coupe l'oreille? Bon, c'est une image. Mais on a besoin d'être sage dans ce domaine-là. Paul dit avec justesse, Éphésiens chapitre 2, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nul ne peut dire qu'il était meilleur. La Bible nous considère tous comme pécheurs. Amen. Il rajoute, mais maintenant, Éphésiens 2, 13, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Éphésiens 2, 19 à 22, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. N'oubliez pas qu'il vit là. Amen. Il vit en nous. Enfin, Enoch a laissé une trace. Il a hérité comme un héritage à sa postérité. 70 ans après son enlèvement, un autre homme de foi est né dans sa famille. Noé, prédicateur de la justice. Alléluia. Petit-fils d'Enoch. Pas formidable? Parce que Enoch marchait avec Dieu dans l'intégrité et dans la foi, je dirais qu'aujourd'hui, il est un modèle pour l'Église. Amen. Pour nous qui vivons dans des temps plus modernes. Il est un modèle. Marcher avec Dieu dans la vérité, dans la foi, en pratiquant la miséricorde envers les autres. Voilà justement ce qui fera de nous des témoins, des porte-paroles efficaces. Notre vie sera un message. Amen. Qu'on dise de vous, elle est différente. Il est différent. Qu'est-ce qu'il a de plus ? C'est vrai qu'on est bien dans sa présence. Vous aimeriez qu'on dise ça de vous ? Parce qu'on me l'a dit. On l'a dit de moi. Je me montre un modèle. Mais c'est ce que nous devons être, serviteurs de Dieu. Enfants de Dieu également. Donc ce n'est pas par de l'orgueil, pour de l'orgueil, mais c'est la réalité. Je suis bien dans ta présence. Qu'est-ce que tu as ? Écoute, viens avec moi. Dimanche, tu te pointes, hein, un peu avant... 15h15, tu te pointes, 169 avenue du camping à Carpentras. Il est venu, il est rentré, je suis allé le rencontrer, il l'a amené avec moi, devant, et puis il a entendu le message de l'évangile. Il m'a dit, maintenant je comprends. Un des patrons que j'ai pris à la châtaigne, un jour, quand je me suis converti, c'est avant de me convertir, hein. Ouais. Puis, quand je me suis converti, je l'ai invité à venir écouter l'évangile. Il est venu. Il m'a dit, maintenant, je comprends. Et puis, un jour, il m'a surpris. Quand vous vous retrouvez avec 20-30 bonhommes dans une salle à manger, là où on mangeait, donc à la caserne, au réfectoire, et puis qu'on vous harcèle sans arrêt, tous les jours, une pique, une autre pique. Il s'est levé et il a pris ma défense. Oui, il a pris ma défense. Il a dit, vous parlez de ce que vous ne savez pas. Moi, je suis allé, j'ai vu. C'était le patron. Amen. Voyez, comme quoi il faut dire les choses. Amen. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça, mais il y a quelques années, nous étions sur Mazargues. Nous avons ouvert la 6e assemblée de Marseille et nous vivions dans les quartiers sud. Beau quartier normalement, mais aussi quartier difficile. La Caillole, ça vous dit quelque chose ? Pas les Caillole, hein, la Caillole. Les Caillole, c'est Cantona qui est de là-haut. Mais la Caillole, c'est tout à fait différent. C'est des quartiers malfamés. Les policiers nous ont dit un jour que c'était une zone de non-droit. On laissait faire un peu là. Comme ça, ils ne faisaient pas de mal ailleurs. Il y avait échange de drogue. Ce n'est pas des bons procédés, hein, mais c'est ce qu'on voyait. Tous les jours ou toutes les semaines, on avait régulièrement un rodéo au feu de voiture. Vous voyez ? Puis nous, innocemment, on est arrivé dans ce quartier. Et puis, on est allé se présenter, animateur de quartier, on est allé se présenter. Voilà, Bernard Villa, Marie-Paul Villa, nos enfants, nous venons d'aménager, je suis pasteur, donc notre église est à tel endroit. Hein. Et puis, les choses se passaient. Et puis, un jour, on est venu nous dire, c'était justement la femme d'un animateur de quartier, d'un basketteur, elle est venue nous dire, vous ne savez pas, il y avait un contrat sur votre tête. Vous avez pris l'appartement de quelqu'un qui le voulait. Mais on ne savait pas. On nous l'a attribué. Et puis, donc, elle a dit, voilà, il y avait un contrat sur votre tête. Mais on ne vous fera rien à vous. Ah bon, pourquoi ? On ne touche pas l'homme de Dieu. Alléluia ! Il y a intérêt à dire qui nous sommes, non ? On ne touche pas l'homme de Dieu. Eh bien, gloire à Dieu, on ne nous a pas touchés. Amen. Et quand on est parti du quartier, comme il y en avait deux, trois familles qui étaient converties, qui étaient à l'église. Alléluia. C'est le Seigneur. Hein ? Alors, si on veut être des porte-paroles efficaces, notre vie doit être notre message. Amen. Par la foi, Enoch fut amené auprès de Dieu, sans avoir connu la mort. Particulier, hein ? Et c'est ce qui lui est arrivé. Personne ne put le trouver parce qu'Enoch, eh bien, Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare eh bien, qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Hein, c'est Hébreux chapitre 11, verset 5, Bible en français courant. La parole de vie traduit « Avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu », la version à la colombe. « Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. » Amen. Et la version seconde, la nouvelle Bible seconde, en effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Amen. Plaisait au Seigneur, de plus en plus. Amen. Lorsque Noé est né, Enoch avait été enlevé par le Seigneur depuis 70 ans. Mais ce qu'on voit, c'est que les choses ne s'étaient pas arrangées sur la terre. Eh oui. Cependant, le Seigneur a patienté encore 600 ans avant de faire venir le déluge sur un monde impie. Combien Dieu est patient. Croyez pas ? Est-ce qu'il a été patient avec vous ? Avec moi, oui. Il m'a touché environ à l'âge de 30 ans, un peu avant. Mais il a fallu que j'accepte de me laisser reprendre par Dieu. Amen. Alors Pierre va dire ceci, 2 Pierre chapitre 2, versets 5 et 9. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, je rappelle, prédicateur de la justice. Lui, le huitième, ce prédicateur de la justice. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, verset 9. Un jour, on chercha Noé, personne ne put le trouver. Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Un jour, les gens nous chercheront. Vous y pensez ? Il a été question de ça dans un don spirituel. Le Seigneur nous aura enlevés auprès de lui. Pourquoi ? Parce que nous lui aurons plu. Vous savez que le Seigneur revient bientôt. Hein ? Bientôt il revient, il est le venant. C'est ce que dit une version, une traduction. Il est le venant, c'est-à-dire qu'il est déjà en train de venir. Alléluia. Et je conclue avec ce verset dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est Paul qui parle, chapitre 5, verset 6 et verset suivant. Il dit, nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans ce corps. Amen. Le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses. Le jugement, c'est tout à fait autre chose. Mais le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses. est-ce que vous préparez une belle récompense? Même si on dit, oh, ne fais pas ça pour la récompense. Ben si! Non! On va faire les modestes, hein? Eh, hey, Seigneur, une bonne place au ciel. Il y en a deux qui l'ont fait, hein? Les fils de Mme Zébédée. À ta droite, un à ta gauche. Bon, ils ne savaient pas ce qui les attendait, hein? Mais nous, nous savons. Nous savons que nous avons en nous celui qui a vaincu. Et dans ce monde, nous pouvons, oui, relever le défi, marcher d'une manière qui lui plaît. Amen. Soyons des consacrés après avoir été des colombes. Oh, on peut faire les deux, hein? Colombes et consacrés. Amen. Que Dieu nous aide à vivre comme ça. Dimanche prochain, je ne sais pas quel personnage je vais vous sortir. Je ne sais pas encore, hein? J'y réfléchis. Voilà, puis je demande au Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci parce que ta parole est riche. Elle est riche en enseignement. Seigneur, nous avons auprès de toi cette assurance que tu vis en nous. Et nous voulons que tu vives, que tu aies toute la place. Merci d'encourager celui ou celle qui en a besoin. Merci de visiter ton peuple, ton église. Seigneur, celle qui est ici, également celle qui est dispersée aujourd'hui avec le temps de vacances. Garde chacun et chacune. Bénis, visite, fortifie, encourage pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Bon appétit, bon dimanche.